Vous écoutez
RMC.
Il est 7h41, bon réveil à tous sur RMC. Quand la lutte contre la fraude se retourne finalement et rend la vie des allocataires honnêtes impossible. C'est ce que vous dénoncez ce matin. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Apolline.
Vous êtes la défenseur des droits, merci d'avoir choisi RMC pour dévoiler votre rapport ce matin. Au fond, bien sûr, la lutte contre la fraude, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, ça rapporte beaucoup et on a réalisé qu'il y avait de très gros montants à réaliser dans la fraude contre les allocations ou les prestations sociales. Sauf que, c'est désormais en train de se transformer en une véritable chasse aux sorcières. C'est ce que vous dénoncez.
Exactement. Et vous avez raison de rappeler que la lutte contre la fraude est indispensable. C'est d'ailleurs un objectif à valeur constitutionnelle. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, ce qu'on observe, et on est là pour défendre les droits des usagers, c'est que cette lutte contre la fraude, elle se retourne contre les personnes. D'abord, il y a une confusion entre les erreurs et la fraude. Et la fraude, c'est l'organisme social qui doit démontrer qu'il y a eu une intention frauduleuse. Et nous, on observe très souvent dans nos réclamants des erreurs. Et les erreurs, elles sont dues à quoi ? À la complexité du système. Les erreurs, il faut le savoir, ne proviennent pas que des usagers, mais aussi des organismes. C'est comme ça que sont générés ce qu'on appelle des indus, c'est-à-dire en gros des sommes qui sont trop perçues, et les personnes reçoivent un courrier disant qu'elles doivent rembourser ces sommes. Et très souvent, ces courriers ne sont pas très clairs. Est-ce que justement c'est un indu, une erreur, ou est-ce qu'il y a une accusation de fraude ? Et c'est important pour les usagers de savoir ce sur quoi on l'accuse, parce que la question du recours sur une décision et quelles vont être les possibilités pour aller contester et dire, en fait non, je me suis juste trompée à cause de la complexité des démarches.
La distinction entre l'erreur et la fraude volontaire, la question de la complexité des démarches et de l'accès même aux services publics, on va y revenir. Mais il y a quand même quelque chose que je comprends pas. On nous avait parlé du fameux oups. Vous vous souvenez le oups, c'est-à-dire le j'ai le droit d'avoir de m'être trompé, je suis en de bonne foi, et l'administration me doit en quelque sorte cette possibilité, cette option de dire je me suis trompée. En fait, ça c'était largement théorique.
Votre oups, il est dans la loi, c'est la loi ESSOC qui consacre le droit à l'erreur. Et nous, qu'est-ce qu'on observe dans une institution comme la nôtre ? C'est l'écart entre le droit annoncé et son effectivité. Mais on parle de choses très concrètes. Enfin, moi je pense à une femme retraitée sur laquelle qui vit à l'étranger, sa pension de retraite est suspendue pendant 8 mois, il a fallu 8 mois pour qu'on lui rétablisse, à cause de la question de la sûreté de son existence. Et elle a donné
des preuves. Elle a dû prouver qu'elle était en vie.
Ce qui est normal. Qu'elle a dû prouver qu'elle était encore en vie, ce qui est parfaitement normal, mais elle n'a pas compris. Elle a envoyé plusieurs certificats de vie qui n'ont pas été considérés comme valables, mais à aucun moment on lui a expliqué quel était le problème, pourquoi ce n'était pas considéré comme valable. Moi, ce qui me frappe, c'est des courriers qui sont excessivement compliqués à comprendre et les personnes ne comprennent pas exactement ce qu'on leur demande. Et j'insiste sur le fait que les erreurs ne viennent pas que des usagers. Les erreurs viennent aussi des organismes sociaux et vous l'avez dit, on a certains réclamants qui doivent 10 000, 15 000, 25 000 euros. C'est quand même énorme après à rembourser.
Claire Hédon, l'usage des réseaux sociaux aussi par les contrôleurs, ça vous inquiète parce que vous constatez aussi que c'est une forme d'intrusion, qu'il y a ensuite une difficulté à y mettre vraiment des garde-fous. Jusqu'où peut aller l'intrusion dans la lutte ou au nom de la lutte contre la fraude ?
Alors, toujours au nom de la lutte contre la fraude, on peut faire un certain nombre de choses, mais les risques, c'est les atteintes à la vie privée, la façon dont sont utilisés les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est public, pas public. Et puis, d'autre part, c'est quand même très important que les personnes comprennent quel a été le motif du contrôle de départ. Justement, est-ce que c'est un algorithme ? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a été utilisée ? À quel moment est intervenu de fait un contrôleur ? Et pour pouvoir après le contester. Et la question après qui est très importante, c'est le plan de remboursement. Quand il y a eu indu ou erreur, comment se fait ?
Eh ben, vous savez quoi, justement, on a le témoignage d'Alexandra qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Alexandra.
Bonjour Apolline et bonjour à votre invité.
Alexandra, soyez la bienvenue. Racontez-nous ce qui vous est arrivé à vous. Il y a eu justement un trop perçu et ça vous a mis dans la très grande difficulté.
Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire à l'instant parce qu'en fait déjà il faut comprendre ce qui s'est passé. Je vous avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. C'est un embrouillis au mon dossier. J'étais en train de me séparer. Ouais. Je suis accompagnée à ce moment-là par un travailleur social de la CAF qui me dit que même quand on est encore sous le même toit du conjoint, on peut indiquer qu'on s'est séparé.
D'accord.
Donc moi je suis accompagnée par un travailleur social. Du coup, en plus, c'est un peu fort de café, vous allez comprendre, je suis moi-même accompagnatrice socio-professionnelle.
D'accord.
Donc, j'ai l'habitude d'être régulièrement en lien avec les services de la CAF. Et puis, des fois, vous tombez sur des personnes qui sont très condescendantes aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de souligner aussi. Et puis, mon dossier n'est pas mis à jour, ça je le comprendrai après. Je n'ai jamais perçu de prime d'activité. Je ne percevais pas d'APL quand j'étais encore avec mon conjoint dans le logement. Et je m'installe au mois d'octobre dans un nouveau logement ici où je suis actuellement avec mes trois enfants. Et je fais une demande d'APL. Ouais. Et quand je fais la demande d'APL, je suis recontactée par une technicienne. Comme j'avais pas les revenus suffisants, donc comme on nous demande trois fois le montant du loyer en revenu, mon fils apparaissait sur le bail. Mon fils aîné qui travaille en alternance, et j'ai un coup de fil un matin, et on me dit, comme votre fils apparaît sur le bail, vous allez percevoir, on va tenir compte de la moitié du montant du loyer pour le calcul de vos APL. Très bien. Et puis on me dit, mais votre fils, il perçoit plus de 55% du SMIC. Je lui dis, vous en avez connaissance de ces revenus, puisque vous récupérez les revenus de l'administration fiscale, des employeurs. Ouais. Moi, je n'ai rien déclaré, c'est des déclarations automatiques quand vous faites votre demande d'APL. Et en revanche, je les avais déjà alertés sur le fait. Et je pense que c'est là aussi les bugs qu'il peut y avoir, c'est que je ne recevais pas mes déclarations trimestrielles d'activité.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, ils vous ont dit quoi? Que vous aviez trop
perçu?
Alors
à la fin, la personne me dit, on va vous envoyer une demande de pièces complètes. J'ai l'impression en plus d'avoir fait moi rentrer le loup dans la bergerie.
Comme en faisant votre demande, oui.
Ouais. Quand cette personne me contacte, elle me dit « on va vous envoyer une demande de pièces complémentaires que je ne recevais pas ». Et là, je suis très angoissée parce que je me dis « il va se passer un truc, on va me notifier un trop perçu, il va se passer quelque chose ». Et c'est moi qui relance une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à demander un rendez-vous. Et effectivement, un jour, j'ai un rendez-vous, on me dit « comme votre fils gagne plus de 55% du SMIC, vous n'aviez pas le droit au complément familial. À l'époque, je gagnais à peu près 120 euros d'allocation plus le complément familial, donc 541 euros par mois. Et je me suis retrouvée avec 100 euros par mois. Donc la notification de trop perçu, là, ils ont été très rapides. J'ai envoyé les CERFA d'alternance.
Vous avez dû rembourser combien?
Là, ils m'ont réclamé 7400 euros mi-décembre.
7400 euros mi-décembre, voilà, là, vous êtes dedans, là.
Noël la part de la CAF de l'Essonne. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'effectivement, et c'est vraiment pour ça que je voulais apporter mon témoignage, parce qu'effectivement, c'est une machine de guerre, comme le disait la personne. Moi, j'ai complètement perdu pied. On passe déjà, je suis seule, avec un loyer de plus de 1000 euros, puisque je suis dans le privé, et je passe de 541 euros par mois, en me disant, en plus, je vais avoir un petit peu d'APL, à me retrouver avec 100 euros par mois. Là, une fois qu'ils ont commencé, moi, je leur ai dit, je ne recevais pas, j'ai pas cherché à cacher les revenus de mon fils, vous les connaissez.
C'est ça, c'est-à-dire, c'est ça ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de fraude. Vous savez quoi? Restez avec nous, je voudrais que Claire Hédon puisse réagir à votre témoignage.
Témoignage.
Et on entend d'ailleurs dans les mots d'Alexandra, il y a eu le mot angoisse et puis je perds pied.
Alexandra dit plein de choses intéressantes. Tous vos témoignages depuis ce matin disent la même chose sur la complexité. Vous voyez bien que c'est pas des personnes qui ont voulu frauder. C'est une question de la complexité du système. Moi, je trouve que ça serait intéressant qu'elle nous saisisse parce que ce que j'entends dans ce qu'elle dit, c'est que le bail, il a été fait avec son fils juste pour qu'elle puisse avoir une location. Ça veut pas dire qu'il vit avec elle. Donc c'est complètement différent. Ça vaut le coup qu'on fouille cette question et qu'on essaye de comprendre. Mais vous voyez, d'abord les personnes ne savent pas forcément qu'on existe et qu'on peut nous saisir. Mais vous voyez, on veut juste avec ce rapport alerter les différents organismes sociaux sur la complexité, faire un certain nombre de recommandations, sur la clarté du langage et qu'est-ce qu'on demande aux personnes, sur la question quand
est-ce qu'ensuite on peut demander un échelonnement, c'est-à-dire que c'est important.
Alors, mais il faut quand même vérifier si elle les doit vraiment ces sommes-là. Il y a deux choses.
Si elle les doit, est-ce qu'elle peut obtenir un échelonnement?
Il y a une erreur. La deuxième chose, si jamais il y a une qualification de fraude, c'est à l'organisme social de prouver qu'il y a fraude et c'est pas à la personne, à l'usager, de prouver qu'elle n'a pas fraudé, ça c'est le point absolument essentiel. Et après, un échelonnement des remboursements pour laisser un reste à vivre aux personnes. Et c'est la bataille qu'on a menée sur le projet de loi, vous savez, sur la fraude. On est très inquiets sur ce projet de loi. On a quand même réussi à gagner avec le ministre que soit maintenu pour les personnes un reste à vivre suffisant. C'est l'application de la Constitution qui s'engage à ce que les personnes aient un revenu minimum suffisant d'existence.
Avec une question aussi, c'est que au fond, c'est tellement décourageant et on entend le parcours du combattant étape par étape d'Alexandra, ça a pour conséquence notamment du non-recours, c'est-à-dire des gens qui lâchent l'affaire, qui abandonnent, qui n'y vont plus, qui ne demandent même plus les aides auxquelles ils peuvent.
Mais vous voyez bien, à chaque fois, ce sont des personnes qui en fait ont commencé les démarches, mais ont plutôt abandonné devant la complexité, effectivement le risque d'être accusé de fraude ou la génération d'un dû. Et donc, on dit... Voilà, dans l'ensemble des pouvoirs publics, on dit qu'on veut lutter contre la fraude, mais enfin, lutter contre la fraude, lutter contre le non-recours aussi, mais la réalité, excusez-moi, c'est qu'on de temps en temps, on se demande si on ne l'organise pas, ce non-recours.
Merci beaucoup, Claire Hédon. Claire Hédon, défenseur des droits. Merci d'avoir choisi RMC pour dévoiler donc votre rapport ce matin sur les dérives ou les excès de la lutte contre la fraude. Et merci à Alexandra pour son témoignage. Courage, Alexandra, dans ce labyrinthe administratif.